Frères et sœurs, les amis, nous voici arrivés au quatrième dimanche de carême. Certains pourront dire, mon Dieu, que le temps passe vite. Alors j'aimerais m'arrêter sur l'évangile, donc nouvelle étape de notre marche vers Pâques, où l'évangéliste Saint Jean va faire référence à un épisode que peut-être nous connaissons, mais qui est peut-être aussi assez loin dans notre mémoire. Voilà pourquoi, rapidement, j'en fais un bref petit commentaire, car la surprise de cet évangile ce jour, chapitre 3, versets 14 à 21 de Saint Jean, nous parle de l'épisode du serpent de bronze. Alors, souvenons-nous, cela se passe dans le désert du Sinaï, pendant l'Exode, à la suite de Moïse. Les Hébreux sont assaillis par les serpents venimeux. Alors pourquoi ils sont assaillis par les serpents venimeux? D'abord parce que dans le désert il y a des serpents, bien évidemment, mais nous savons très bien que ce peuple hébreu n'a pas complètement ou totalement la conscience tranquille, puisqu'il ne cessait pas de récriminer contre Dieu, comme le rappelle souvent le livre de l'Exode. Et ils sont convaincus que ces serpents qui sont là sont une punition de Dieu et une punition du Dieu de Moïse. Et donc, ils vont supplier ce dernier d'intercéder pour eux. Alors, je cite rapidement le texte. Le peuple vint trouver Moïse en disant « Nous avons péché en critiquant le Seigneur, en te critiquant, etc. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Et Moïse intercéda donc pour le peuple. Et le Seigneur dit à Moïse, « Fais faire un serpent brûlant, c'est-à-dire venimeux, et fixe-le à une hampe. Quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve, etc. etc. » C'est au livre des Nombres, chapitre 21, versets 7 à 9. Alors évidemment, en lisant ça, on peut se dire que c'est un tour de passe-passe ou un tour de magie. Mais non, Moïse va reprendre tout simplement et transformer de l'intérieur ce qui était jusqu'ici un acte magique, entre guillemets, en acte de foi. Pourquoi ? Parce que la coutume d'adorer un Dieu guérisseur existait devant bien avant Moïse et ce Dieu était représenté par un serpent de bronze, mais j'y reviendrai tout à l'heure à nouveau. Alors, Moïse a comme ça transformé beaucoup de rites, entre guillemets, païens, en rites plus chrétiens, ou tout au moins en rites de foi, puisque c'est bien de la foi dont il s'agit. Alors Jésus reprend cet exemple que je viens de vous remettre en mémoire de l'épisode du serpent de bronze, et il va reprendre cet exemple à son propre compte. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme, vous connaissez le texte. Ainsi, de la même manière qu'il suffisait que les Hébreux regardent le serpent de bronze avec foi dans le Dieu de Moïse, le Dieu de l'Alliance, pour être guéri physiquement, désormais, il suffira de lever les yeux avec foi vers le Christ en croix pour obtenir la guérison intérieure. Alors, comme chaque fois, va s'opérer une transformation très importante et décisive. Je vous l'ai dit déjà dimanche dernier. Au travers de ce rapprochement entre le serpent de bronze élevé dans les déserts et la propre élévation du Seigneur sur la croix. Et donc il fait faire un saut extraordinaire entre l'Ancien et le Nouveau Testament, ce saut accompli, qui va être accompli, par la personne même du Christ. Tout d'abord, dans le désert, nous l'avons bien entendu, seul le peuple de l'Alliance était concerné. Ce peuple hébreu, le peuple choisi, qui se trouve en exode vers la terre promise, en marche vers la terre promise. Et donc là, en Jésus-Christ, ce n'est plus un seul peuple, le peuple élu, mais c'est tous les hommes. C'est le monde entier qui est invité à croire pour vivre. Deux fois, il est répété, tout homme qui croit en lui obtiendra la vie éternelle. Tout homme, et non pas simplement le peuple élu ou le peuple de l'Alliance. Oui, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé, et en cela est repris une phrase du prophète Zacharie qui dit bien en quoi consiste cette transformation de l'homme, ce salut que Jésus nous apporte. Ce jour-là, je cite Zacharie, « Je répandrai sur la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem un esprit de bonne volonté et de supplication. Alors ils regarderont vers moi celui qu'ils ont transpercé. » Esprit de bonne volonté et de supplication, eh bien, c'est le contraire de l'esprit de récrimination qui était celui du peuple hébreu dans le désert, au travers de l'épisode que j'ai rappelé tout à l'heure avec Moïse. Donc nous voyons bien, ou nous sentons bien, que pour la première génération chrétienne, la croix était regardée comme un instrument du supplice, bien sûr, mais comme la plus belle preuve de l'amour de Dieu. Ainsi, nous découvrons qu'il y a deux manières de regarder la croix du Seigneur. Elle est, bien sûr, et c'est tout à fait vrai, la preuve de la cruauté, de la haine et de la bêtise de l'homme, mais elle est bien plus encore l'emblème de la douceur et du pardon du Christ. Le Seigneur accepte de subir la haine et la méchanceté des hommes pour nous montrer jusqu'où va l'amour de Dieu pour l'humanité. Donc la croix est le lieu même de la manifestation de l'amour de Dieu. « Qui m'a vu, a vu le Père », nous dira également saint Jean. Alors pour bien comprendre cela, je me suis dit « mais, le serpent n'est-il pas dans le livre de la Genèse, celui qui symbolise le mal, le tentateur, et celui dont Dieu dira « Maudit sois-tu, serpent ». Alors comment, voilà encore éventuellement une contradiction ou un paradoxe, comment cet animal qui représente le mal, le serpent donc, peut-il devenir, une fois érigé sur cette hampe de bois, le signe du Christ Sauveur? Eh bien, en faisant des recherches, j'ai trouvé une ébauche de réponse. Tertullien, c'est chez lui que j'ai trouvé ça, va faire écho des premiers maîtres de la foi. Et il va dire ceci. Tertullien qui va s'élever contre les hérétiques nicolaïtes. Et il dit ceci. À ces hérétiques se joignent ceux que l'on appelle ophites, c'est-à-dire ceux qui glorifiaient tellement le serpent qu'ils le mettent au-dessus du Christ lui-même. En effet, disent-ils, c'est lui qui nous a donné l'origine de la science du bien et du mal. Alors, tout ça très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, au paradis terrestre, c'était l'omniprésence du bien parfait pour l'homme, pour l'ensemble de la création. Et dans ce paradis terrestre se trouvait un animal, à savoir le serpent, qui va être le tentateur au milieu de ce paradis terrestre qui représente la totalité du bien que Dieu a offert à l'homme. Autrement dit, ou dit d'une autre manière, la présence du bien omniprésent dans ce paradis terrestre et de son opposé, représenté par le serpent, va mettre en œuvre ce qui est présent dans toute notre existence, c'est-à-dire un choix, la liberté. Et donc la présence du serpent va mettre en place la distinction entre le bien omniprésent dans ce paradis terrestre et celui qui vient titiller par la tentation et que nous appelons le serpent. Eh bien, sur la croix, c'est exactement la même chose. La croix symbolise le mystère de la haine et de la violence de l'homme, mais celui qui se trouve sur ce que représente, à savoir la croix, la haine et la méchanceté de l'homme, à savoir celui, la seule qui est saint, la personne du Christ, on voit bien qu'à la fois le bois de la croix et celui qui est le seul saint sur cette croix nous fait découvrir à la fois l'objet qui a servi à la manifestation de la haine des hommes et de la méchanceté, à savoir la croix, et celui qui est le seul saint sur cette même croix. Voyez-vous ? Voilà pourquoi on dit que la croix est à la fois le signe du crucifié, c'est-à-dire la manifestation de la haine des hommes, mais aussi cette croix est devenue symbole de la tendresse de Dieu, parce que celui qui était sur cette croix, c'est celui-là seul qui est saint, et qui est ressuscité, et donc qui a vaincu toute espèce de mal qui a été cloué sur cette croix. Et alors à ce moment-là, l'instrument du mal opéré par les hommes, à savoir la croix, devient pour nous aujourd'hui le signe victorieux de la puissance du bien sur toute espèce de mal. Voilà la réalité, si je puis m'exprimer de cette manière-là, qui est représentée par à la fois le rappel du serpent de bronze et le texte d'aujourd'hui de Saint Jean. Alors j'allais dire, ce texte nous prépare admirablement à rentrer dans le mystère de la passion du Seigneur, dans le chemin de la croix, parce que nous savons que la finalité de ce chemin, c'est la victoire du crucifié sur ce bois de la croix qui fait devenir le bois lui-même objet de guérison intérieure, objet d'immense miséricorde pour tous les hommes. Amen.